Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Linda Vougris, Linda qui est géographe, maître de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est titulaire d'un doctorat qui a pour titre « Produire la nation blanche, race, environnement et économie politique du tourisme au Costa Rica ». Et ses recherches portent sur les politiques de la nature et les processus de racialisation dans les Amériques, les politiques patrimoniales et l'économie politique du tourisme. En 2020, elle publie notamment le Plantacéocène, dont elle va nous parler, Dictionnaire critique de l'Anthropocène et le tourisme à l'épreuve des paradigmes post- et décoloniaux. Donc je donne maintenant la parole à Linda. Merci.
Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation et je suis ravie de poursuivre nos échanges sur les enjeux qui ont traversé ces deux demi-journées. On va voir qu'il y a un certain nombre de choses qui vont faire écho à la passionnante conversation qu'on a eue cet après-midi. Alors, j'ai décidé au cours de cette intervention de mettre en relation deux expériences de recherche. L'une qui relève de la généalogie de mon questionnement sur les écologies afro-diasporiques depuis le Costa Rica. Et l'autre qui est une performance artistique réalisée à Paris par un artiste visuel avec lequel je travaille sur les savoirs et les formes d'attachement au végétal, Jean-François Beauclé. L'idée de cette mise en relation est de montrer la reconfiguration de la critique d'un mode d'habiter colonial depuis les plantations d'ananas dans la Caraïbe jusqu'aux espaces urbains de la métropole parisienne. Donc deux expériences qui questionnent une série d'enjeux qui sont posés par la catégorie de plantationocène, dont j'ai décidé de ne pas retracer la généalogie dans le cadre de cette intervention au risque de manquer de temps pour présenter les deux expériences. Donc je vais passer un peu rapidement, mais il faut quand même que j'en dise quelques mots pour bien situer la mise en relation des deux expériences dont je vais vous faire part. Donc c'est une formulation, nombre d'entre vous est très familier avec le débat autour de cette catégorie, qui est le résultat d'une critique menée à l'encontre du grand récit de l'anthropocène, dont le suffixe anthropo suppose l'humanité comme une entité homogène, une abstraction qui ne permet pas de penser les rapports de pouvoir qui traversent les groupes sociaux qui la composent. L'enjeu de cette critique est d'affirmer le caractère situé des actions humaines dans la transformation de la planète et donc de rompre avec une certaine lecture anhistorique et apolitique de la domination et de l'altération de la nature. S'interroger sur le suffixe anthropo permet ainsi une distanciation à l'égard d'une catégorie inventée par la modernité occidentale qui ne correspond pas à l'humanité, aux humains dans leur ensemble. Là, je reprends les analyses nombreuses, notamment de la pensée caribéenne, je pense à la philosophe jamaïcaine Sylvia Winter, qui est revenue sur, qui historicise cette question de qu'est-ce qu'être humain, hein, et qui revient sur les différentes conceptions de l'homme, et notamment de l'homme moderne occidental blanc, qui selon Sylvia Winter, a produit cette catégorie du noir, animalisé, incarnant l'altérité radicale et au fondement du rapport économique et politique de domination et d'exploitation. Donc une catégorie qui permet donc de penser la plantation comme un laboratoire de la transformation profonde du système Terre, caractérisée par la mise en place d'une logique extractiviste, hein, on l'a déjà beaucoup abordé, un régime d'exploitation intensif également des humains et non-humains. Les violences sociales et écologiques, c'est ça l'idée des plantations, ça, c'est que les violences sociales et écologiques ne peuvent être envisagées séparément. La plantation matérialise un ordre écologique, social, économique, politique. Donc parmi les enjeux majeurs posés par cette catégorie, j'en retiendrai quelques-uns, cette idée de la logique extractiviste comme institution d'un rapport dominant à l'environnement, qui s'articule à une logique de conservation d'une nature fétichisée. On est vraiment sur une matrice prédation-conservation, d'une nature fétichisée qui se traduit par une certaine épistémologie de la conservation, à travers notamment les espaces protégés, la question du patrimoine naturel, contre une éthique environnementale du soin inscrite au quotidien, d'une part. Une catégorie qui permet aussi de resituer la matrice raciale au cœur des transformations du système Terre, domination des corps, des territoires altérisés et naturalisation de cette altérité. Donc là, c'est aussi de revenir, et ça, Nat Singh aussi l'évoque hein, dans l'opinion de la fin du monde, cette idée de la plantation, la mobilisation du discours racial afin de justifier la violence esclavagiste et coloniale est une composante structurante de ces régimes de plantation. Et enfin, penser plantation sociale, c'est aussi penser les spatialités subalternes, c'est-à-dire aussi les résistances, aussi les contre-imaginaires spatiaux à l'œuvre de façon dialectique avec ces logiques de domination. Alors, je vais commencer par exposer la façon dont je suis venue à me poser la question des savoirs et modes d'engagement avec l'environnement, et notamment les écologies afrodiasporiques à partir du Costa Rica. Cette généalogie, elle part de mes recherches sur les politiques de conservation de la nature au Costa Rica, qui produisent des géographies subalternes marquées par de la colonisation, des déplacements forcés, des marginalisations, voire des incarcérations spatiales. Et donc, j'ai notamment travaillé sur la reconfiguration d'une matrice raciale qui a forgé l'imaginaire national de ce pays au XIXe siècle. C'est vraiment l'idée de la nation blanche, un paradigme national qui forgeait l'idée de la modernité, de l'exemplarité, du pays pacifique, exemplaire, moderne, démocratique, parce que blanc. Et j'essaie de montrer une reconfiguration de ce discours autour du discours contemporain sur l'environnement, l'idée finalement de la nation blanche à la nation verte, qui produit, qui participe de processus de racialisation. Bon, je n'ai pas le temps ici d'exposer dans le détail cette démonstration, donc excusez mes ellipses, mais une série d'enjeux permet de comprendre de quelle façon s'opère cette reconfiguration, et en particulier à partir des imaginaires de la nature qui structurent le discours environnemental au Costa Rica aujourd'hui, et qui sont ces imaginaires qui sont mobilisés à l'échelle internationale dans le cadre de la promotion touristique du Costa Rica, c'est l'idée du paradis de la biodiversité. Donc il y a effectivement un des enjeux, c'est la question de la colonialité des imaginaires de la nature, et de ce point de vue, les Amériques sont traversées par de nombreux imaginaires géographiques qui se sont sédimentés au fil des siècles. Il est question d'Éden, de vision fantasmée d'une nature vierge, primitive, pure, luxuriante, et l'un des enjeux est de déconstruire ces imaginaires de la nature pour saisir les géographies de la violence, de la ségrégation, de l'exclusion qu'ils produisent. Alors, j'ai travaillé sur différents imaginaires, en l'occurrence la question de la wilderness aux États-Unis, mais et également cette nature tropicale, de la tropicalité, qui s'inscrit dans une histoire longue et croisée entre l'Europe et les Amériques. Et là, c'est vraiment tous les travaux en histoire environnementale qui nous aident, qui ont joué un rôle majeur pour comprendre la construction d'un espace de la tropicalité des Amériques dans un contexte mondial, colonial et impérial. Qui mettent en évidence, donc ces travaux de l'histoire environnementale montrent vraiment ce processus d'altérisation des territoires et de naturalisation de cette altérité qui construit de façon dialectique le monde tempéré, l'europanéité. Donc je pense également au travail de Marie-Louise Pratt, là on est plus dans le champ de la littérature, mais qui revient sur la construction d'un imaginaire de l'Amérique tropicale en Europe au 19e, à partir notamment des récits de voyage, qui est un genre qui est extrêmement lu, et c'est effectivement des corpus que j'ai pu analyser, notamment dans le cadre du Costa Rica, qui vont contribuer à fabriquer une certaine image des Amériques associée à cette nature, une vision fantasmée d'un Éden vierge et sauvage. Marie-Louise Pratt revient notamment sur les écrits d'Alexander von Humboldt, qui a vraiment contribué à populariser des espèces de figures spatiales que sont les forêts tropicales exubérantes, les bassins de l'Amazone, de l'Orénoque, les montagnes escarpées, les cordillères des Andes, les volcans du Mexique, et enfin les vastes plaines intérieures, les llanos du Venezuela ou la pampa d'Argentine. Une naturalisation de l'altérité qui produit non seulement de la hiérarchisation, et qui génère également des logiques de prédation à l'égard des ressources naturelles. En l'occurrence, les descriptions d'un Éden vierge et sauvage, présentes dans les écrits de ces voyageurs, dessinent, nous dit Marie-Louise Pratt, un Scramble for America, à l'image du Scramble for Africa, c'est-à-dire un partage du continent par des puissances occidentales. Donc toute cette construction narrative, iconographique de l'Amérique tropicale va forger la désirabilité de ces territoires et finalement rendre possible la logique exploratrice, conquérante, extractiviste. Des territoires dont elle explique qui étaient jalousement gardés par la couronne espagnole. Donc pourquoi le 19e siècle? C'est le démantèlement de l'Empire, les indépendances des pays et donc une circulation plus grande de voyageurs qui écrivent, dont les travaux sont traduits, qui circulent, etc. Et on retrouve encore aujourd'hui l'idée de cette mise à disposition des territoires des Amériques au cœur de l'imaginaire touristique caribéen, avec l'idée d'un paradis tropical, qui permet la mise en œuvre de logiques extractivistes. Cet imaginaire de la nature tropicale, tel qu'il est mobilisé par exemple dans l'économie touristique contemporaine, invisibilise toute une multiplicité de violences d'exclusion et de ségrégation. Donc là, je reprenais notamment une citation de Michelet et Jeannery qui montre un peu hein, cette, finalement du régime de plantation, hein, cette économie touristique, cette idée d'une mise à disposition des territoires. The Caribbean has been repeatedly imagined and narrated as a tropical paradise in which the land, plants, resources, bodies, dialectique du corps et de la terre, and cultures of its inhabitants are open to be invaded, occupied, bought, moved, used, viewed, and consumed in various ways. Je voulais donner un exemple à partir du cas, effectivement, costaricien, je vais terminer cette question de la colonialité de l'imaginaire de la nature, à travers cet exemple d'une affiche de promotion touristique de la région caribéenne de Limón. Juste, je vous avais fait... je veux jouer ma géographe, alors que mon rapport à la cartographie est assez complexe. Mais vous voyez, donc, je parle de la plaine de Limón, donc la façade caribéenne du Costa Rica. Et donc, on revoit à travers cette affiche, hein, où tout est dit. Columbus was so right when he named us. On retrouve l'ensemble de ces mécanismes d'altérisation spatiale, de tropicalisme domestique. Pour rappel, l'État costaricien a une formation raciale historique assez complexe, avec l'adoption de lois visant aussi à sélectionner l'immigration, l'adoption de lois biopolitiques visant à protéger la race homogène au 19e, hein, donc c'est le classique contexte de l'eugénisme, du racisme scientifique du 19e. Mais cette racialisation spatiale, elle se déploie également à travers la concession d'une portion du territoire au sein du Costa Rica à un entrepreneur états-unien, initialement pour construire le chemin de fer, et puis ensuite ça a été pour la production bananière. Et effectivement, cette plaine caribéenne, c'est le lieu de naissance de la United Fruit Company, hein, la fameuse compagnie bananière états-unienne qui a obtenu cette concession de l'État costaricien et qui a obtenu l'autorisation de gérer cette portion du territoire avec pleine autorité. Hein, qui a organisé l'arrivant de migrants travailleurs jamaïcains, enfin, principalement venus de Jamaïque, mais aussi de Trinidad et d'Amérique centrale. Et qui s'engage à les maintenir isolés, interdiction bien sûr de sortir de cette portion du territoire, sans aucun contact avec le reste du territoire, donc une ségrégation raciale de l'espace, des activités aussi socioculturelles, hein, qui va structurer profondément cette portion du territoire jusqu'à la fin de la concession dans les années 50. Donc aujourd'hui encore, on a cette poursuite de la logique extractiviste, qui est un extractivisme aussi symbolique autour de l'expression culturelle des populations noires, la danse, la musique, la cuisine afro-caribéenne, l'érotisation des corps, etc. etc. Alors, ce n'est pas un tiroir qu'on referme, parce que bien sûr, ces processus historiques de racialisation reconfigurent les territorialités aujourd'hui. Les imaginaires de la nature et leur matérialisation, notamment à travers la création d'aires protégées, invisibilise, notamment dans le cas du Costa Rica, ces géographies de la violence. Et plus largement, je veux dire, au-delà du Costa Rica, on sait tous qu'effectivement, tous les travaux en politico-écologie hein, documentent que ces politiques de conservation, nourries par ces imaginaires hein, de la nature sauvage, pure, à préserver, s'inscrivent dans des processus d'accaparement des terres, de déplacement forcé de population, de militarisation de la conservation, c'est des cas très documentés, notamment au Guatemala, je pense en Amérique centrale, mais pas que, et de contrôle renforcé de l'État sur les territoires et leurs habitants, au nom de la conservation de la nature. Donc des politiques de dépossession, d'exclusion, de déplacement de population, de contrôle de l'espace, eh bien, ce sont autant de pratiques spatiales qui matérialisent les processus de racialisation. Alors, ce que nous dit cet exercice de généalogie des imaginaires de la nature, c'est les contradictions fondamentales d'une conception de la nature fantasmée, comme radicalement séparée de nos existences quotidiennes. La nature pensée comme fétiche, qui s'incarne dans des espaces protégés, et qui ne permet pas, et qui même nous détourne de nos formes d'engagement avec l'environnement inscrites au quotidien. Hein, c'est ce qu'évoque l'historien... l'environnement William Cronon, hein, lorsqu'il parle du « trouble with wilderness », le problème avec la wilderness, c'est effectivement comment repenser la nature au quotidien, comment repenser les contradictions d'une matrice qui articule conservation et prédation extractiviste. Ça renvoie, enfin, je pensais que ça renvoyait d'une certaine façon à la discussion qu'on avait eue hier sur droit de l'écosystème versus droit des communs, mais il y a aussi autre chose, parce qu'il y a peut-être la discussion autour de la modélisation, donc... Mais effectivement, pour moi, le discrédit autour de l'écosystème, c'est l'imaginaire de la nature que ça suppose. Mais Bénédicte, vous avez soulevé aussi d'autres enjeux. Et donc, c'est depuis ces territorialités diasporiques qui ont été et sont encore niées que j'ai commencé à interroger cette épistémologie de la conservation et de ce que Anne-Laura Stoller évoque en parlant de présence coloniale d'une certaine conception du patrimoine naturel matérialisé par les espaces protégés. Et c'est dans cette perspective que je suis retournée dans la plaine caribéenne, donc là, à l'issue de mes travaux de recherche notamment doctorale, pour tenter d'appréhender cette pluralité des savoirs et des modes d'engagement avec l'environnement. Et cette question des territorialités, elle est fondamentale, parce que c'est tenter de saisir, et là ça renvoie exactement à ce que tu évoquais Bénédicte, c'est-à-dire c'est tenter de saisir les imaginaires, les mémoires, les expériences, les pratiques, les ancrages spatiaux de populations caractérisées par cette contradiction, en l'occurrence, là, je parle des populations afrodescendantes des Amériques, par cette contradiction qu'une chercheure, Catherine McKittrick, résume si bien en parlant d'un « black sense of place ». Qu'est-ce qu'elle entend par « black sense of place » C'est-à-dire des populations qui ont été déplacées dans ces territoires des Amériques, qui sont présentes, qui ont joué un rôle de façon dialectique, je l'évoquais précédemment, dans la définition d'un « nous », et dont on nie pourtant l'appartenance à ces territoires, qui sont sans cesse marginalisés, qui sont sans cesse rendus invisibles et qui subissent, encore aujourd'hui, des violences politiques, économiques, sociales et environnementales. Hein, McKittrick parle de, finalement, ces populations de la diaspora noire des Amériques « held in place and placeless hein, ». C'est pour ça qu'elle dit « les black matters are spatial matters ». Cette idée que, comment repenser ces géographies noires qui ont été marquées par le transbordement, la colonisation, les pratiques de racisme, mais aussi les résistances à la suprématie blanche. Et donc, c'est comment ouvrir des perspectives de réflexion pour penser nos ancrages spatiaux. En l'occurrence, dans le cas de la diaspora, ce qui est intéressant, c'est façonner des ancrages spatiaux pardon, qui ont été façonnés par les circulations. Nos modes d'engagement avec le vivant marqués par les mémoires et les expériences de la résistance à la violence radicale. Bon, j'ai malheureusement pas le temps de revenir dans le détail, et pourtant c'est important, mais comme je vous l'ai dit, on a affaire à un espace complexe, cette plaine de Limón au Costa Rica, des héritages multiples, de marginalisation, de relégation, d'effacement, des logiques de prédation, mais aussi des résistances, elles aussi plurielles, comme celles menées par Marcus Garvey, hein, qui a fondé la Black Star Line, notamment à Limón, donc avec un discours afrocentriste à ce moment-là, mais qui est passé par le Costa Rica, bon, là en termes de résistance historique, hein, mais les résistances sont multiples, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et au cours de mes dernières enquêtes, je retiens un entretien mené avec Veronica Gordon, qui est une habitante de Puerto Viejo, qui est une ville au sud de la province, descendante de migrants jamaïcains, et qui a créé avec son mari une entreprise touristique, donc chambre d'hôte, ferme, cours d'herbologie, cours de cuisine vegan. Et je retiendrai quelques éléments fondamentaux de ces écologies afrodiasporiques qu'on peut assimiler à véritables écologies de la libération. À savoir, il y a toute une construction d'une relation au vivant qui se structure autour de ce qu'elle appelle la reforma por salud, la santé physique, mentale, émotionnelle, sociale, spirituelle, et ce soin du corps qui passe par l'alimentation. C'est-à-dire parler de conservation, c'est pas parler d'espace protégé. C'est vraiment entrer dans une logique, c'est intégrer cette éthique du soin dans notre habité quotidien. Et on n'est pas dans la folklorisation du rice and beans, l'alimentation afro-caribéenne telle qu'elle est reprise par l'Institut costaricien du tourisme. Veronica Gordon explique vraiment son approche ancrée dans l'héritage d'une généalogie familiale hein, depuis la Jamaïque. La question de la transmission au sein de la communauté est centrale. Elle nous dit « Nosotros debemos aprender más de que nos somos y encontrar nuestra identidad hein, ». C'est un processus dans lequel il s'agit aussi de se redécouvrir, de réapprendre à être qui nous sommes. Une entreprise de réflexion qui est menée sur le travail de la terre, la relation au vivant, la place du corps, la notion d'équilibre sont autant d'éléments à penser pour appréhender ces écologies de la libération. Alors là, je tends une perche à Jean-Baptiste, puisque tu m'as dit que tu travailles aussi beaucoup cette question du soin. Donc, il était attendu que tu me poses une question, mais j'avoue que moi, j'aimerais aussi beaucoup en savoir cette question du soin du point de vue des territoires ruraux en France. Mais donc, voyez ici, ce sont des questionnements que j'explore. J'ai essayé de vous exposer rapidement un cheminement empirique, et c'est depuis la plaine caribéenne du Costa Rica, et notamment des rencontres comme celle de Veronica Gordon, qui m'ont conduit à penser la question des savoirs et des modes d'engagement avec le vivant au sein de la diaspora afrodescendante. Donc il est question de pratiques culinaires, d'alimentation, de commensalité, ça c'est un élément qui est important, le partage du repas, le faire communauté, le savoir herboricole, des manières de faire relation avec les non-humains. Alors, autant de dimensions qui mériteraient chacun, bien sûr, un examen complexe et qui peuvent être pensées en dehors de tout romantisme, comme des critiques expérimentales et en acte du capitalisme racial à partir de modes d'engagement avec le vivant qui ne soient pas de l'ordre de la commodité, mais du commun. Donc, travailler sur les écologies afro-diasporiques, c'est travailler sur les enjeux de racisme environnemental, d'extractivisme, de capitalisme racial, mais c'est aussi penser à ces pratiques et comment elles nous interpellent où que nous soyons situés. Il faut penser tout cela ensemble, parce que les géographies noires dans les Amériques ont été façonnées par ces violences multidimensionnelles, mais elles ne peuvent pas être uniquement définies par ces violences, elles les débordent incommensurablement. Donc c'est penser les spatialités subalternes, ces espaces dans lesquels se déploient des contre-récits, d'autres pratiques, elles-mêmes marquées par les circulations, et ancrées dans des multiples registres d'identification caractéristiques du Black Atlantic, hein, l'Atlantique noir. Donc là, c'est les travaux de Stuart Hall, Gilroy, cette idée de multiplicité, hein, qui est caractéristique de cette diaspora noire des Amériques, c'est une multiplicité de registres d'identification, le registre afrocentriste étant une des modalités parmi d'autres. Et donc, saisir ces autres modes d'habiter la Terre, d'autres formes d'engagement, et en saisir bien sûr la complexité. Alors, je voudrais vous présenter, sur le temps de présentation qui me reste, un travail de Jean-François Boclet, qui illustre la reconfiguration d'un mode d'habité colonial depuis les plantations de bananes, comme je vous le disais, jusqu'aux espaces urbains de la métropole parisienne. Alors, Jean-François, dont je vais essayer de restituer aussi la parole, avec lequel je travaille actuellement sur la question des savoirs et des formes d'attachement au végétal, donc a travaillé beaucoup sur la question du végétal, mais végétal toxique. Il a notamment travaillé sur le corps des cônes en Martinique, mais il a aussi élaboré des installations à Limone au Costa Rica, en Colombie, donc un questionnement autour de la plantation de bananes. Et puis, il a mené une performance artistique du côté de la Halle Pajol, dans la zone d'aménagement concerté dans le quartier de la Chapelle, au nord de Paris. Et vous allez voir qu'à travers parce qu'il appelle à une performance, il est question de racialisation de l'espace, de spatialité normative dominante, coercitive, mais aussi de spatialité subalterne, qui tente de réinventer d'autres imaginaires spatiaux. Alors, la ZAC Pajol, c'est donc une ancienne friche ferroviaire située dans le quartier de la Chapelle, au nord de Paris. À la suite d'une grande évacuation hygiéniste en 2015, je passe rapidement les photos pour vous montrer rapidement, et on verra tout le discours, notamment autour de la durabilité, des jardins partagés, de la biodiversité, des plantes. Mais donc voilà, la Halle Pajol, qui est située donc dans le quartier de la Chapelle, à la suite donc de grande évacuation hygiéniste en 2015, la mairie de Paris a installé un manège mécanique grillagé à la fonction quasi panoptique. Puis en juillet 2016, des terrasses végétalisées comme stratégie d'éviction des migrants de l'espace public. Alors, je vais revenir sur le rôle de sa performance dans la transgression des pratiques et du sens assigné à cet espace, en proposant d'inventer un mobilier urbain nomade et d'envisager les modalités d'un être là, le Manla martiniquais. L'artiste produit une contre-narration ancrée dans une histoire connectée des corps dominés. Alors, l'idée initiale de Jean-François, je l'appelle Boclet, mais on s'appelle, voilà, je l'avais dit, c'est que je l'appelle Boclet, mais l'approche de Jean-François, c'est d'appréhender initialement la question qui lui était posée, c'est la nature en ville, et notamment regard critique de la nature en ville. Et donc, il a travaillé sur les jardins partagés, notamment celui de Pajol, le point d'ancrage, donc le jardin, et qui va se voir occupé par ces populations migrantes. Et donc, je cite, je passais là régulièrement. J'ai relevé des choses avec mes yeux, je les ai mémorisées. Pas tant sur les personnes que sur l'espace occupé par les réfugiés, qui était le jardin partagé de la rue Pajol, avec tout le truc, les plantes, la menthe, le persil. Et les tentes sont venues dessus. Les tentes ont froissé les feuilles. Toute la ZAC Pajol est un espace devenu très gentrifié. C'est le cœur de la gentrification du quartier Marc-Dormois, autour d'un grand bar qui a une grande terrasse aussi, 300 personnes. Et il y avait des liens. C'était obscène. J'avais le sentiment d'être là, dans le cœur du monde aujourd'hui, ce qui ne passe pas de l'un à l'autre, ce qui est très violent. C'est c'est-à-dire ces personnes réfugiées qui sont là dans des situations qu'on peut imaginer, et les autres qui continuent à 3 mètres de là, à boire leur bière de la même manière, à inviter des DJ, et ça ne fait pas question. Il fait le parallèle en termes d'image avec les baigneurs des plages grecques à côté des corps échoués, et c'était la même chose à Pajol. Pour moi, c'était la même chose, dit-il. Et donc Jean-François va analyser les différentes stratégies d'occupation de l'espace Pajol, hein, il va être vraiment dans une espèce de dissection d'une architecture spatiale bien segmentée. Il va identifier notamment les pratiques spatiales normatives et contre-normatives, à savoir, dans un premier temps, le retournement du jardin partagé. Il y a l'occupation spatiale des migrants, dont il compare la tactique de visibilisation à celle de la communauté homosexuelle dans les années 80. Il dit, je cite, les migrants ont investi un espace libre. La stratégie des réfugiés à Pajol a été excellente. Et ça a été celle de la communauté homosexuelle, par exemple, au début de l'épidémie du sida. C'est soit visible, sinon tu meurs. Et c'est risqué d'être visible. Occuper l'espace du visible, c'est risqué. Il redonne ainsi hein, tout le contrôle dans cette tactique, l'agency, dans la tactique d'occupation spatiale des migrants, qui ne serait pas du hasard, mais une tactique choisie de visibilisation. En fait, je cite, là, ils pouvaient dire au maximum leur situation. Aussi parce qu'il y a ce jardin partagé, tout mignon, et qu'il y a ces beaux restaurants et tout ça. L'espace d'à côté, donc extrait du Monde, où on voit effectivement l'occupation sur cette première partie, hein, l'espace du jardin partagé. Deuxième, ce que Jean-François appelle l'espace d'à côté, qui dans le projet d'aménagement s'appelle l'antenne jeune. Je cite Jean-François. Le collège s'appelle Aimé Césaire. C'est pas n'importe où, ça. Ils ont fait ça parce qu'ils se sont dit dans quel quartier faire ça. On va pas faire ça dans le 16e pour des petits blancs. On va donner des noirs aux noirs. Mais en fait, il y a quelque chose. La mairie de Paris a lancé quelque chose. Il y a des bons noirs et des mauvais noirs. Les mauvais noirs sont les réfugiés, les primo-arrivants. Et les bons noirs, c'est ceux qui ne prennent pas tellement de place, au fond. On leur construit un lycée, un théâtre. Enfin, c'est pas on leur, c'est on met ça devant et on leur laisse l'usage d'un espace de dalle. Ça, c'est des bons noirs. Les petits jeunes descendants d'immigrés à qui on n'a pas donné grand-chose à part un lycée qui s'appelle Aimé Césaire et un théâtre où ils n'y vont pas bien. Ils ont des petites animations, ping-pong, danse, R&B, tu vois, des trucs bien locaux. Mais tu ne te rends pas compte que c'est un dispositif occupationnel pour la mairie. Ce n'est pas pour les occuper eux, c'est pour occuper l'espace. Parce qu'au fond, on n'en avait rien à faire de les occuper, ces gamins. Donc ça, c'est la façon dont il définit, identifie l'espace d'à côté. Et enfin, troisième type d'espace hein, sur cette Alpajol, ce qu'il appelle l'espace gentrifié autour du café-club, avec l'apparition de concept stores, épiceries de nourriture new-yorkaise, produits des États-Unis. Donc voilà, là on est sur cette partie qui est effectivement la partie gentrifiée, donc des concept stores, l'épicerie américaine, Deli Drop, etc. etc. Et les stratégies d'éviction qui se sont mises en place, c'est, vous voyez, hein, il est question de la terrasse du restaurant de la Alpajol sera agrandie, les plantes seront ajoutées, tables et chaises seront installées devant la médiathèque, une exposition extérieure sera montée, des maîtres chiens enfin sécuriseront les lieux. Là aussi, hein, il est question d'agrandir la terrasse, de mettre en place des maîtres chiens, et là, c'est effectivement le manège qui a été mis en place, gardé par des maîtres chiens. Le jardin partagé, l'agrandissement du jardin partagé et des terrasses végétalisées, donc là je cite Jean-François, ils ont amplifié le jardin partagé, ils ont rajouté des structures en bois, et toute cette architecture c'est dans la mouvance jardin partagé, c'est en bois de récupération de pain, comme des palettes, et on l'a vu en une journée, parce qu'on construit très vite avec ça, ça coûte pas cher. En une journée, ils ont rempli l'espace de structures en bois, et tu avais des animations, et évidemment il fallait payer, on paie, ça c'est la bonne exclusion. Évidemment, ça exclut les réfugiés de revenir. Et ça dit exactement aux petits jeunes quelles activités ils peuvent avoir. Ils font du ping-pong et de la danse, mais attention, ils ne consomment pas. Donc là, les fameux bancs aussi qui sont mis en place. Bon, il revient aussi sur d'autres stratégies d'occupation afin d'évincer. Mais donc, je vais introduire donc ça. Sa performance, qui il a intitulé « Affranchissons hein, », c'était l'ouverture d'un interstice spatial pensé dans une histoire croisée et connectée des corps dominés. Alors « Affranchissons », c'est quoi? C'est une marche qui était conçue comme une traversée des frontières de ces différents espaces identifiés. Il nous a réunis à Pajol pour rendre public son fanzine, hein, un extrait de son fanzine, conçu comme une lettre adressée au maire du 18e, qui propose d'installer un mobilier pérenne, un manège à expulser. Donc l'idée était de se réunir et de poster chacun d'entre nous une lettre avant la levée de 16 heures et ensuite de marcher ensemble dans cet espace Pajol. Nous nous sommes réunis dans l'esplanade Nathalie Sarraute, en face du collège Léné Césaire, du centre sportif, l'espace fréquenté par les jeunes du quartier, pour beaucoup issus de l'immigration. Cet espace d'à côté qui est, je cite, le lieu de parole du quartier, pas des gentrifiés qui ont besoin d'une table et de verres et des consommations. On est donc allé voir ensemble le lieu gentrifié, le lieu autrefois occupé par les migrants, avec les traces de ficelles, les végétaux écrasés par les tentes de migrants, ces végétaux réhabilités dans les terrasses végétalisées en cours de construction, le jour d'ailleurs de la performance. Donc là, c'était notamment la lettre adressée au maire, qui inclut dans son fanzine là, le manège à expulser, et donc la marche à travers ces différents espaces. Et là, effectivement, ces traces de végétaux écrasés par les tentes de migrants, qui permettent de renvoyer aussi à ces présences absentes, hein, ces absences programmées. Donc une déambulation pour voir les différentes pratiques et les différents sens assignés à ces espaces. Alors bien sûr, le tout était accompagné de musique. Il a décidé d'apporter une dimension sonore à la marche qui s'est faite au son d'Akio, un groupe guadeloupéen formé d'indépendantistes. Akio, je cite, a revivifié et amplifié le carnaval. Ils ont fait un travail de revalorisation du guoka, des musiques traditionnelles de l'esclavage. Le carnaval, c'est les dominés qui occupent l'espace des dominants. Dimension forte donc de la marche, de la proteste, comme il dit. Il y a également du R&B, du coupé décalé, qui renvoie à des usages musicaux qui sont en partie présents dans cet espace. J'ai proposé ce petit sound system, dit-il, c'est aussi pour dire on est là, on n'est pas là-bas, on n'est pas chez les gentrifiés. Il y a cet usage qui est là. Alors bien sûr, il y a aussi tout un volet autour de l'hospitalité. La boisson, la nourriture, nous avons consommé un certain nombre de choses, avec sur le mode de la gratuité, qui fait partie aussi d'une inscription dans les usages des lieux. On partage, nous, un moment, c'est quelque chose qui se fait dans ce lieu. Il ne s'agissait pas de venir avec des amis artistes, des amis chercheurs dans un lieu et faire chic. Ils ne voulaient pas être en mode vernissage, être avec une parole non langagière, une circulation, un espace relationnel qui se tisse autour de l'aliment. Je cite, parfois, quand on ne parle pas, manger, c'est être avec, c'est un élément de circulation. Et l'hospitalité qui renvoie aussi à son expérience antillaise, hein, aux Antilles, quand tu invites des gens, quand tu invites chez toi, on donne à manger, à boire, c'est normal. On ne vient pas sec avec juste la pensée, c'est sec la pensée. Et d'ailleurs, il assimile cet espace dans lequel nous sommes réunis à un tiers espace entre espace public et espace privé, renvoyant là aussi à son expérience antillaise. Tu connais ça un petit peu, donc dans pas mal d'endroits, l'espace public est aussi un espace privé. Tu vas te mettre devant ta maison, dans la rue, tu parles. C'est pas le même rapport que tu vas avoir ici. J'ai voulu nous inscrire dans cet espace. Il renvoie là aussi au man-là, être là, martiniquais, qui est la réponse apportée à la question ça va. On répond man-là. Aux Antilles, ça veut dire être là, dans l'espace. Une réponse par une présence. Je suis avec toi. On est très spatiaux, nous, les Antillais, me dit-il. Mais là, on est spatiaux, sachant qu'on a été dépossédés de l'espace. On n'avait pas accès à l'espace. Le navire négrier, t'imagines qu'à l'espace, la plantation, la case, étant le seul lieu, le module où les choses peuvent se faire si on ferme le rideau et si le blanc ne rentre pas. On voit ici comment se dessine une histoire croisée des corps dominés. La référence à l'expérience antillaise est récurrente. Ces observations sont constamment informées par celle-ci. Alors, je vais juste donner deux exemples et je terminerai après là-dessus. Le chien. Après la première évacuation, la mairie a mis un noir dans une voiture, gardée de sécurité, toujours un noir, un bon noir, effacé. Tu sais, les mecs qui sont là toute la journée avec un chien dans une cage. Un chien en plus. Les noirs ont commis tellement de chiens. Moi qui suis martiniquais, c'est lourd. En plus, on n'aime pas ça, ils le savent bien. On n'aime pas les chiens. Ça a été amené par le colonisateur. C'est pour ça que dans certains rituels sacrés, on s'est mis à manger du chien parce que c'est tabou. Manger du chien, c'est manger de l'homme en général parce que c'est un animal domestique proche de l'homme. C'est presque manger du blanc, quoi. Le foot. La scène qu'il observe finement lorsque la commerçante déplace sa publicité pour occuper l'espace et signifie aux migrants jouant au foot de partir. Il explique ainsi que cette scène lui a renvoyé à cet imaginaire des Noirs jouant au foot en Martinique en écoutant de la musique sur la plage. Je suis antillais. À partir des années 80, début des années 90, on s'est mis aux Antilles à avoir des métropolitains qui venait nous dire « Arrêtez de jouer au ballon, on a nos enfants. Tu ne peux plus, par exemple, ouvrir ton coffre de voiture à la plage et mettre de la musique à fond. Ils vont venir te voir et te dire « Monsieur, ce n'est pas légal. Nous appelons les gendarmes blancs. » Donc, il poursuit à propos du contexte de Pajol. C'était ces Noirs qui jouent au football. Dans l'imaginaire, il y avait ça et je l'ai vu. À propos de la commerçante, doucement bouillonnée. Donc, on est vraiment dans des croisements avec l'expérience antillaise. On l'a vu avec la musique, le tiers-espace, tous ces différents éléments sur lesquels je suis revenue. Et on n'est pas dans la proteste frontale à travers sa performance. Il cherche à ouvrir un espace interstitiel. On s'inscrit dans les usages des lieux, mais on y assigne d'autres sens. On occupe l'espace, on donne de l'épaisseur au présent, ça renvoie un peu à cette idée d'épaisseur évoquée par Bénédicte, on visibilise les frontières, on donne de la matière au sans-part, en visibilisant ce partage du sensible. Donc, il dissèque l'espace, les corps présence humaine, non humaine, en présence, le végétal, les animaux, les présences absentes, les stratégies et tactiques d'occupation et d'éviction. Et peut-être que je vais terminer par cette citation d'Achille Mbembe qui permet de faire le lien un peu entre ces deux expériences. La matière première de l'expérience entre le Costa Rica et la Alpajol, la matière première de l'économie, ce ne sont plus véritablement les territoires, les ressources naturelles et les personnes humaines. Certes, territoires, ressources naturelles et personnes humaines sont toujours indispensables, mais le milieu naturel de l'économie est désormais le monde des processeurs, des organismes biologiques, artificiels. C'est l'univers astral des écrans, des glissements fluides, des lueurs, de l'irradiation. C'est aussi le monde des cerveaux humains, des computations automatisées, du travail avec des instruments à la taille toujours plus réduite. Dans ces conditions, produire des nègres ne consiste plus exactement à la fabrication d'un lien social de suggestion, d'un corps d'extraction, c'est-à-dire un corps entièrement exposé à la volonté d'un maître, duquel on s'efforcera d'obtenir le maximum de rentabilité. Si hier, le nègre était l'être humain d'origine africaine, marqué par le soleil de ses apparences, la couleur de son épiderme, tel n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. L'on assiste désormais à une universalisation tendancielle de la condition qui était autrefois réservée aux nègres, mais sur le mode de l'inversion. Cette condition consistait en la réduction de la personne humaine en une chose, un objet et une marchandise. La production des sujets de race se poursuit certes, mais sous de nouvelles modalités. Le nègre d'aujourd'hui n'est plus seulement la personne d'origine africaine, celle-là qui est marquée par le soleil de sa couleur. Le nègre de fond d'aujourd'hui est une catégorie subalterne de l'humanité, un genre d'humanité subalterne. Cette part superflue et presque en excès, dont le capital n'a guère besoin et qui semble être vouée au zonage et à l'expulsion. Donc, réclamer la terre, c'est aussi faire tenir ces différents fils qui sont inextricablement liés, le végétal, le racial, colonial. Réclamer la terre, c'est interroger aussi les reconfigurations contemporaines de la plantation, les reconfigurations contemporaines de ces figures altérisées et naturalisées. Je vous remercie.
Merci, merci beaucoup Linda pour cette très belle intervention et lecture de cette performance. Je vais donner la parole à Jean-Baptiste Perret pour lancer nos échanges. Jean-Baptiste qui est participant actif du laboratoire et qui travaille notamment le film et l'installation vidéo, mais qui a aussi qui a été formé en biologie et en écologie. Voilà, je te donne donc la parole.
Merci Linda pour ta présentation qui nous rappelle combien les violences écologiques et sociales sont intriquées. Alors je ne sais pas comment relier tout ce que tu as évoqué parce que c'était très dense, c'était très multiple et complexe. Simplement voilà, pour connecter avec la précédente intervention et puis aussi ce qu'on a dit hier, etc. Il me semble, dans ce que tu nous dis, dans à la fois l'exemple que tu donnes de cet artiste-là qui vient faire ses gestes dans cet endroit urbanisé et dans ton terrain d'études aux Amériques, il me semble que ce qui est important, c'est de aussi oublier cette mise à distance de l'objet d'étude et de se laisser traverser, je le dirais comme ça, peut-être que je le dis très mal, tu reformuleras, mais se laisser traverser par des forces. On se demandait hier comment, on s'est demandé pendant deux jours comment réclamer, comment habiter. Et peut-être bien que c'est justement par cette manière de se laisser traverser par les forces. Et il me semble que le moment, moi, du soin, qui m'intéresse dans ma pratique artistique, est un moment justement où on se laisse gagner par notre intégrité est remise en question. On est malade. On ose se dire qu'on est malade par un agent extérieur et on ose se dire qu'on peut peut-être guérir, en tout cas prendre soin de soi et aussi que l'autre peut prendre soin de nous. Ça, c'est un moment, moi, que je trouve dans l'histoire de l'individu qui est un moment merveilleux. Ce moment où on ose se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que Peut-être que c'est une plante qui va nous guérir, peut-être que c'est un autre. Et c'est, bon, je lance une petite piste là qui peut peut-être relier tout ce qu'on a évoqué entre hier et aujourd'hui.
Oui, Jean-Baptiste, merci. Et je t'avais... C'était pas une formule rhétorique, en fait, lorsque je proposais vraiment que tu évoques davantage le travail que tu as réalisé dans ces territoires ruraux, en questionnant un certain nombre d'acteurs et sur ce rapport au corps, à la santé et donc aux soins, parce que ça permet aussi de faire le lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici, en écho avec la conversation qu'on a eue précédemment, c'est-à-dire la modernité, eh bien, elle a effectivement ravagé l'Europe depuis bien longtemps. Que reste-t-il? Et donc, d'une certaine façon, c'est aussi ramener cette question de la colonialité en Europe et pas simplement là-bas. Vraiment, j'aimerais, si on a un peu de temps, mais j'aimerais vraiment que tu puisses nous en dire quelques mots, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. Et par rapport à comment réclamer la terre, et là, ça fait aussi lien avec la conversation qu'il y a eu précédemment, c'est-à-dire effectivement comment... De toute façon, moi, je me sens interpellée par ça. Et là, je reviens peut-être à d'où est-ce que je parle, en fait, à savoir, je suis enseignante-chercheur. Et dans le contexte actuel, être maître de conférence à l'université, c'est beaucoup plus faire de l'enseignement, d'administration, et un peu voir, hein, si on a le temps et si on a les moyens, de faire un peu de recherche. Et donc, ma condition, elle est effectivement d'être enseignante-chercheur à l'université, à Paris, depuis... ce lieu qui a été le cœur de l'Empire, d'une certaine façon, et donc quel est mon rôle à moi, comment moi je me sens interpellée par rapport à ça. Et c'est vrai que là, ce que je vous présente là, ça n'a pas été une évidence qui a coulé de source, il faut aussi revenir un peu sur le cheminement, c'est-à-dire d'une certaine façon, j'ai dû apprendre à penser contre, c'est-à-dire contre ma formation dans un état... postcolonial, dans lequel la race est un impensé, dans un contexte où le discours universaliste, assimilationniste est très puissant et qui invisibilise un certain nombre de choses. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui se jouait dans le contexte cosiaristien et de pouvoir comprendre cette question de la construction de la nature racialisée, parce qu'effectivement, je n'avais pas les lunettes. Penser contre une formation disciplinaire, qui est celle de... J'ai été formée en géographie du développement. Géographie du développement, enfin, il faut aussi la généalogie de la géographie du développement, la géographie tropicale. Donc, ça a été avec une formation qui n'a pas regardé de façon critique ou questionné la colonialité d'une discipline qui a été institutionnalisée comme discipline au moment de l'expansion de l'Empire. Et donc, qui fait qu'on attendait de moi que je regarde la question du développement durable, le rapport conservation-développement, le rôle du développement touristique. Et donc, je n'avais pas les outils pour me permettre de mettre en relation des expériences, des pratiques, des méthodologies. Et donc, par exemple, dans le cas du Costa Rica, je ne peux pas comprendre ce qui se joue sans me pencher sur l'histoire environnementale qui raconte aussi comment s'est construit ce discours sur la wilderness aux États-Unis, sachant que c'est une formation discursive qui a circulé, puisque les élites costariciennes, dans la mise en place du système de conservation nationale, se sont formées aux États-Unis. Et dans le même temps, il y a eu une circulation de capitaux, d'experts venus des États-Unis et d'Europe au Costa Rica dans la mise en place du système de conservation. C'est comment aussi regarder, je n'aurais pas pu comprendre les choses si je n'avais pas regardé ce qui se joue du côté des Black Studies ou des Cultural Studies pour essayer de comprendre c'est quoi ce Black Atlantique, cet Atlantique noir, ces circulations. Donc vous voyez, donc c'est penser contre cette logique disciplinaire qui est presque aussi... plantocratique, de la façon, et comment remettre de la transdisciplinarité dans notre façon d'appréhender le réel, une complexité qui dépasse en fait nos logiques disciplinaires. Donc c'est aussi penser avec d'autres disciplines, avec d'autres corpus qui me nourrissent. Et donc mon rôle en tant qu'enseignant-chercheur, c'est, et je terminerai là-dessus, c'est je repense aussi un peu, j'évoquais Sylvia Winter, quand elle écrivait un texte Non-Human Involved en 92 après les mobilisations autour du passage à tabac de Rodney Scott à Los Angeles, et donc elle interpelle ses collègues enseignants en leur disant mais de quelle façon en fait on contribue, on est des grammairiens de l'ordre épistémique dominant, de quelle façon on contribue à reproduire aussi un système, et donc quel rôle on a à jouer dans nos espaces pour repenser tout ça. Donc l'interpellation de comment réclamer la terre, pour le moment j'essaie de la penser à l'échelle finalement de mon espace qui est celui de l'enseignement Donc c'est déjà une tâche immense. Qui renvoie finalement aux conversations qu'on a eues précédemment sur cette nécessité d'éclater la logique disciplinaire.
Moi, j'ai une question qui n'a pas à voir directement avec ce qui vient d'être dit, mais je me demandais s'il y avait eu des tentatives de renommer le Costa Rica, parce que ce nom de Costa Rica, il est lourd.
Vous avez vu l'affiche de l'Institut Costa Rica, Is Columbus was so right when he named us.
Donc, elle date de quand cette affiche?
Des années 2000, non, qu'est-ce que je raconte, des années 2000, oui, 2010. 2011, 2012, et je parle de tropicalisme domestique parce qu'on a une forme de colonialité qui a été incorporée par l'État-nation costaricien qui reproduit ces mécanismes de racialisation à l'échelle de sa province. Donc on n'est pas dans des logiques nord-sud, mais à l'échelle du Costa Rica, on a ces mécanismes-là. Donc,
Et si tu permets, justement, puisque tu souhaitais... alors, que l'interaction puisse avoir lieu entre vous, ça, c'est super, mais c'est vrai que... On parle d'un contexte, pour le coup, qui est pas à l'opposé, mais tellement différent, et que le mot soin peut faire lien d'une manière ou d'une autre, je reprends ce que tu disais. Donc c'est pour autant de la perche, pour que vous puissiez non pas faire d'analogie, puisqu'il n'y en a pas, ou potentiellement ne sont pas de même nature, mais juste décrire un tout petit peu, pas ton cheminement, mais au moins un instant T de ta démarche et de ta vie, de tous les jours, j'allais dire presque.
Oula.
Non, mais bon. Description plus que philo, je ne sais pas.
Oui, oui, bien sûr. Ben, en fait, on aurait plein de choses à dire. Simplement, ouais, moi, avant, j'ai fait de l'écologie scientifique. Donc, tout ce que vous avez dit tout à l'heure m'a permis de mieux comprendre pourquoi j'ai arrêté au bout d'un moment. Et pourquoi j'ai arrêté, et notamment parce que j'ai rencontré une personne qui m'a assez bouleversé et qui, après, est devenue... un personnage de mon film, de certaines installations que je continue à suivre, on est très liés, qui m'a permis de basculer dans une autre pratique et qui j'ai abandonné l'idée de pouvoir changer les choses en faisant de l'écologie scientifique. Désolé, j'ai jeté l'éponge, mais en fait c'était pour moi c'était indispensable parce que donc un jour j'étais chargé de mission en Natura 2000, j'avais une liste de personnes à aller voir et de les convaincre de protéger tel secteur, telle plante, tel habitat protégé par une directive européenne. Donc j'étais un missionnaire de l'Europe pour ça, auprès de ruraux d'Auvergne qui sont je viens de là-bas moi, donc je les connais très bien. On se connaît très bien. Et un jour, j'avais sur ma liste Christiane Gourbert et mes collègues au PNR où je travaillais m'ont dit « Oulalalala, Jean-Baptiste, ne va surtout pas la voir, tu vas te ramasser un piquet par la tête. » Voilà, c'était la sorcière du coin, c'était... Et donc, et d'ailleurs, c'était la seule à habiter encore sur la zone protégée. La seule, elle y habite encore, hein. on l'enlèvera pas, tant mieux. On m'a dit « Donc, n'y va pas. » Bon, j'y suis allé. Mais je me suis renseigné un petit peu à l'avance. Mon grand-père la connaissait. Donc, j'y suis allé, je me suis présenté et tout allait bien. On m'a dit de raconter ma vie, je la raconte. Et donc, je suis arrivé là-bas et je me suis pas reçu de piquer sur la tête. Ça a duré très longtemps. C'était superbe, une rencontre merveilleuse. Et je suis reparti de là-bas sans avoir pu lui faire signer le papier, bien sûr. Et j'étais très content de ne pas... Par contre, je suis revenu avec un bouquet de persil énorme et de carottes et de poireaux que j'ai ramené au parc en trophée parce qu'ils avaient parié sur moi que je ne pouvais pas rentrer dans la maison. Et elle m'a dit en partant, sans signer le papier, elle m'a dit « Jean-Baptiste, ce qu'on garde pourrit, ce qu'on donne fleurit. » Voilà. Non, mais pour vous dire que... Il y a un cheminement qui s'est fait et dans cette rencontre avec cette personne qui m'a amené à faire autrement de l'environnement, à m'y intéresser, mais par le cinéma, par les outils du cinéma, par les outils de l'installation et via la question du soin. Parce que c'est une manière qui a, la meilleure manière pour moi, qui a de relier les gens entre eux et les connecter au territoire. Bon, via des pratiques alternatives de soins plutôt. Voilà, je ne sais pas si je réponds, je suis permis de m'étaler non plus.
Merci, oui, c'était très éclairant. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat. Pardon. Bénédicte, tu as une question?
Mais de juste avoir plus de descriptions peut-être aussi des soins du corps à partir de la maison et des pratiques culinaires de Véronica Gordon. Enfin, voilà.
Vraiment, ce que j'évoquais, c'était évidemment des pistes que je suis en train d'explorer. Donc, mais qui, du coup, c'était, pour le coup, en parlant de rencontre, ça a été effectivement une rencontre importante dans la compréhension de la problématique de l'épistémologie de la conservation, quoi. Se dire, mais en fait, dans la pratique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire une éthique du soin inscrite au quotidien? Et c'est effectivement passé d'abord par cette rencontre et ensuite une conceptualisation. Oui. Et qui fait que ça remet le curseur, par exemple, sur le travail de la terre. Donc, c'était pas tant la dimension esthétique, plaisir du lieu, du paysage, mais c'était vraiment le travail de la terre. Ça passait vraiment par l'alimentation. D'où aussi, mon intérêt, c'est sur ces savoirs qui circulent. Je montre Marie, parce que Marie Fleury a beaucoup travaillé sur, finalement, ces savoirs et pratiques qui circulent dans les communautés Negmaron. Donc, Marie est un puits de savoir de ces communautés.
Bien. Ben écoutez, merci beaucoup pour toutes ces très belles interventions, provocations et toutes ces choses qui vont continuer à nous faire réfléchir au-delà de cette journée. Et donc, je vous invite à descendre dans l'espace d'exposition. Il y aura à 18h l'activation de l'œuvre de Megan Cope dans la première galerie de l'exposition.